C'est quoi ? Tête à claque ? Ah oui, l'émission sur les démocraties, les alternatives libertaires. Ouais, allez, on écoute.
À la bande d'Austin.
Oui, à la bande d'Austin, du coup, c'était... Ben voilà, on est dans un ancien centre de convalescence qui a fermé en juin dernier. Et on a les locaux, en fait, depuis les premiers arrivants. Ils sont arrivés en octobre de cette année. Enfin, ouais. De cette année, de 2021. Ouais. Voilà, c'est ça.
Ok, ouais, c'est tout jeune, quoi.
C'est tout jeune.
Et donc, le chalutier, c'est ça ?
Ça s'appelle le chalutier, ouais. C'est un gros bâtiment, c'est 4000 mètres carrés. C'est très imposant, on le voit de loin. Et en fait...
Tu me fais visiter, alors, du coup ?
Ouais, je te fais visiter. Du coup, là, on est dans une des salles communes, en fait, d'un des bâtiments qu'on investit. Parce qu'il faut savoir qu'il y a plusieurs bâtiments dans le centre de convalescence. On en investit un déjà, parce qu'on n'est pas encore très nombreux.
Vous êtes combien ?
Eh bien, je ne pourrais pas te dire de nom, mais en tout, on doit être une... Dans l'association, on doit être une quarantaine. Après, il y a...
Déjà.
Bah, c'est bien. Alors, après, on est tous des bénévoles.
Ouais.
Y a des gens qui y travaillent tous les jours, il y a des gens qui y habitent aussi. On a 6-7 personnes qui habitent de manière permanente au chalutier et d'autres personnes qui y travaillent. Par exemple, voilà, moi je travaille pour l'association L'Arsenoscope qui est un des porteurs de projet et qui co-crée le tiers-lieu. Et donc on a 9-10 artisanes et artisans qui se sont installés dans les locaux et qui y travaillent tous les jours. Après, on a les brasseurs Sakifo qui brassent au chalutier. On a des artistes, sculpteurs qui sont là, qui ont leur atelier. Il y a des musiciens qui ont aussi des salles de répète.
Riche.
Ouais, c'est riche, on est pas mal. L'objectif, ça serait de remplir les espaces et puis créer plein de choses ensemble.
Ouais, mais je vois déjà que le lieu, il est quand même assez viable.
Ouais.
Il n'y a pas de gros travaux aussi ?
Eh bien, alors en fait, en première impression, c'est vrai que c'est un bâtiment voilà, qui recevait encore du public l'année dernière. Mais donc voilà, c'est des bâtiments qui sont sains. Après, la congrégation religieuse, donc c'est les propriétaires du lieu, il n'y a pas eu d'investissement qui a été fait en fait dans l'isolation thermique, par exemple, la révision de l'électricité, de la plomberie. Et donc, en fait, il y a énormément de travaux, malgré tout, qui ne sont pas forcément visibles tout de suite, mais effectivement, il y a plein de rénovations qui doivent être faites. Donc voilà, là, c'est les salles communes. Et on a fait des concerts ici. On fait c'est des espaces qui sont entrepris pour faire des réunions, nos âgés. Enfin, voilà, c'est un peu des espaces de vie. À côté, je te laisse me suivre.
Ouais.
À côté, on a du coup une autre salle de vie où du coup on a l'habitude d'y manger. Bon, maintenant on mange dehors, mais voilà, on a
génial.
On s'y installe pour manger. On a de quoi cuisiner, des frigos. On a un bar, un petit espace un peu plus tranquille avec un petit canapé, des bouquins. Donc ça, c'est vraiment les espaces de vie en bas. On a une petite kitchenette par là et par ici, c'est une autre salle de réunion qu'on peut louer en fait à des associations ou des gens qui ont besoin de salles pour faire des réunions.
D'accord.
Dans un cadre au pied du Vercors. Ensuite, donc on va continuer sur au rez-de-chaussée. Ici, en fait, à gauche, on va avoir tout un espace où on a fait des travaux avec l'Arsenoscope, du coup, l'association pour laquelle je travaille.
Ouais.
Une autre salle qu'on a fait abattre cloison, etc. Et du coup, on a un projet d'y faire une salle bois pour, par exemple, quelqu'un qui veut y travailler à la journée ou à la semaine ou au mois, il peut y avoir accès quand il est professionnel. Aussi, pareil, voilà, donner des cours vraiment sur le bois avec accès à des machines, etc. Et on a une petite salle par ici où là, ça serait vraiment plus réservé à la stabilisation et au renfort en fait du modèle des artisans et des artisanes. mais vraiment du modèle, par exemple, comptabilité, économique. Ah, c'est vraiment pour stabiliser et renforcer, en fait, tout ce côté-là, parce qu'elles sont toutes créatrices et créateurs. Mais au-delà de ça, il faut aussi faire du marketing, de la com, de la compta. Et c'est des choses qu'on aimerait bien
développer
avec eux et elles pour que voilà, leur micro-entreprise, leur côté vraiment entrepreneur, soit...
Puisse grandir et...
Voilà.
Et ce sont forcément des artisans du coin ?
Oui, c'est vraiment local, ouais. En fait, maintenant, on a quand même...
Vous avez accès local, quoi.
On a quand même Isère, Drôme et Ardèche, mais c'est pas plus 50 km généralement autour. Donc voilà, on a plusieurs ateliers. Ici, il y a Floriane qui est tapissière d'ameublement. Il y a aussi eu des vannières, des couturières, des céramistes. Enfin, voilà, on a plusieurs cœurs de métiers assez différents. Et voilà, les artisanes, ils travaillent tous les jours ici.
Génial. Ah, c'est chouette, hein?
Ouais.
Je te montrerai les bureaux après.
Ouais.
Au deuxième étage, tu veux visiter tout?
Bof, ma foi. Après, c'est vrai que c'est très coupé en petites chambres, en fait.
Voilà, tu vois bien comment ça pouvait être avant. C'était vraiment des chambres de 9-10 mètres carrés.
Eh ouais.
Où, du coup, voilà.
Ouais, vachement petit, hein.
Il y avait un lit, et puis. Et le deuxième étage, du coup, on a le hublot. C'est un espace de coworking qui s'est installé ici. Et voilà, ils sont entre 6 et 7. Ça tourne, ils sont pas. Toujours 6, 7, tous ensemble. Mais voilà, des gens qui viennent, qui ont plein de métiers différents. Il y a des illustratrices, des gens qui font des documentaires. Enfin, voilà, d'autres personnes qui sont sur des applications, des startups, des choses comme ça. Et du coup, ils viennent travailler ici. C'est des espaces vraiment de coworking.
Ah ouais.
Et puis après, au deuxième étage, on a qui d'autre ? Il y avait ETC, c'est un collectif d'architectes aussi qui a installé des bureaux, mais ils sont sur plein d'autres projets. Donc, c'est vraiment immense. Bah, on a 3-4 étages.
Ah oui ?
Ouais. Il y a Lilian qui est écrivain et aussi peintre qui a son atelier ici. Et puis, on a une super nouvelle. On a eu une première subvention par la Fabrique de Territoire, la FAPTI. Et ça va nous permettre de salarier une première personne au chalutier. Donc, on est super heureux parce que c'est énormément de travail. On est tous bénévoles dans l'asso. Donc, voilà, c'est une première subvention qui permet de salarier une première personne.
Donc là, il y a 4 étages qui ressemblent à ça, en fait.
C'est ça,
à chaque fois la même chose.
Ouais.
D'accord.
Pas forcément parce qu'en fait, de ce côté-là, il y a une tour. Donc, haut. On a une super salle où justement il y avait des cours de yoga, mais c'est une belle salle en 380, c'est très très beau, il y a plein de... Enfin c'est très ouvert, c'est très chouette, et c'est des salles qui peuvent être louées justement pour... On a des partenaires qui viennent faire des grosses réunions ici, et voilà, c'est vrai que c'est un cadre qui est super chouette. On est vraiment... dans une petite commune où on est au pied du Vercors, complètement immergé dans la verdure, c'est très beau.
Ouais.
Et donc là, tu as une bonne idée de l'ampleur du parc, parce que c'est quand même 7 hectares.
Ouais.
C'est immense, ouais, 7 hectares de terrain. On vient d'installer une slackline dans le parc. Il y a plein de projets assez chouettes. Enfin, l'objectif, ce serait vraiment que notre envie... un peu notre rêve, c'est que vraiment les gens puissent venir ici, qu'ils aient accès au parc, qu'ils se baladent, que voilà, c'est un espace...
En fait. Ça soit pas un espace forcément très privé.
Je pense que l'objectif, la valeur du tiers-lieu, c'est vraiment d'être ouvert dans son territoire, et puis avec les gens qui sont autour, ça sert à rien de faire quelque chose si c'est être centré sur soi et sur... Et sur notre asso, non, nous, enfin, je pense que chaque tiers-lieu, voilà, l'envie, c'est que ça soit ouvert et qu'il y ait du lien qui s'y crée. Et du coup, ça peut prendre du temps, mais après, voilà, on essaye de faire comme beaucoup de gens, beaucoup de tiers-lieux, de faire des animations, des événementiels, des concerts, des événements culturels,
la vie, en fait.
De la vie. Et puis voilà. comme tu disais tout à l'heure, les tiers-lieux, c'est des viviers, et puis il y a plein de corps de métiers différents, et puis il y a avoir des musiciens comme des artisans, des brasseurs, enfin... Voilà, il y a plein de possibilités. Et puis en plus, quand on est dans des bâtiments comme ça, ça a un potentiel, potentiel.
Ça fait rêver.
Et puis tu vois, avec 7 hectares de terrain, on aimerait bien qu'il y ait des gens qui travaillent la terre. On a commencé un potager en contrebas. Mais en fait, la difficulté dans notre projet à nous, c'est que comme on n'est pas propriétaire,
ça limite
beaucoup. Et en fait, il y a plein de fous, d'un peu fous comme nous qui s'y installent, tu vois. Mais effectivement, ceux qui travaillent la terre, c'est tellement long dans le mécanisme qu'en fait on peut pas leur dire vous pouvez vous installer, mais dans un mois on risque de de partir. Donc ouais,
parce que là vous êtes quoi, en location?
Alors on est sous Comoda, c'est une particularité. En fait, on est ni propriétaire ni locataire, on peut user des locaux en payant les charges, bien sûr. Donc c'est l'équivalent des loyers qu'on paye, en fait. Les charges qu'on paye, c'est les loyers, en fait, qu'on demande aux gens qui sont dans les locaux. Et comme on est ni propriétaire ni locataire, en fait, c'est un contrat avec les propriétaires du lieu qui nous dit que voilà, on peut user des locaux pendant une certaine période, et à terme, en fait, les propriétaires veulent qu'on rachète le bâtiment. Il y a vraiment cet enjeu de rachat, en fait.
Ouais.
Et si on ne peut pas racheter, on devra partir.
Et il y a un laps de temps qui est défini ou pas?
C'est 3 ans.
C'est 3 ans.
Trois ans.
Ah ouais, ok.
Il a été décidé 3 ans. Alors après, on est en lien avec eux, en discussion, en négociation. Enfin, ils ont été séduits par le projet, hein,
oui.
Vraiment, c'est... Ça a été à l'initiative de la mairie, mais aussi d'autres porteurs de projets. Et c'est vrai qu'ils ont été séduits par cette envie de réhabiliter les locaux, d'avoir une vraie continuité en fait, dans le travail qui a été fait par les bonnes sœurs, mais je te raconterai un peu après.
Ouais.
Et du coup, voilà, c'est vraiment... eux, ils veulent vendre ce bâtiment, mais en même temps, ils ont été séduits par notre projet. Donc voilà, ils nous disent, expérimenter, essayer de faire...
Ça peut les convaincre finalement de voir... si vous aboutissez des choses.
Exact. Puis je pense qu'on a tous envie de trouver des autres manières de travailler, de vivre ensemble, d'impulser vers quelque chose qui va à l'encontre en fait d'un chemin un peu
classique,
et d'aller un peu à l'encontre d'une société dans laquelle on se retrouve plus finalement. Et puis si on arrive à convaincre des gens qui sont aussi un peu fous comme nous de de venir s'investir aussi,
et puis
nous rejoindre dans un rêve un peu fou, non, parce que tous les jours voilà, on s'y retrouve et puis on est heureux d'être ensemble. Et puis voilà, il faut vraiment se dire qu'il faut y aller, même si on a une deadline et que on doit arracher quand même un bâtiment qui coûte très cher. Après, voilà, il faut se dire que on est là pour expérimenter et pour faire des choses qui font sens, qui nous font sens à nous et qui font sens aussi pour le territoire, et d'essayer de créer du lien. Et puis voilà, après, advienne que pourra, on verra comment ça se passe. C'est le chalutier.
Advienne que pourra. C'est très pirate.
Ouais. Et donc voilà, après, il y a eu un alignement de planètes entre la mairie et d'autres porteurs de projets, dont l'Arsenoscope, pour lequel le collectif pour lequel on travaille. Et voilà, d'autres personnes qui étaient vraiment intéressées par la création d'un tiers-lieu. Et les gens présents à ce moment-là, l'année dernière, du coup, se sont dit, créons un tiers-lieu à partir de ce centre, quoi.
Donc vous vous connaissiez déjà ?
Et non, c'est ça tout l'intérêt aussi. C'est un gros point dans notre collectif, c'est qu'on se connaissait pas avant de travailler ensemble.
Aussi, famille rurale, le tiers-lieu de La Roue, qui fait partie de cette rencontre. En fait, elle a eu lieu au forum Hypercute à Valence, qui était du coup la rencontre de toutes ces femmes qui portaient des projets et qui cherchaient des lieux pour créer un tiers-lieu, et les élus de la mairie qui avaient cet espace et qui voulaient aussi monter un même projet, comme disait Clara, dans la continuité de ce qui avait été fait ici en lien avec les habitants du territoire, quoi. Donc cette rencontre-là, allié à l'opportunité du bâtiment dont la congrégation veut se séparer, ils veulent le vendre.
Ouais.
Et ben ça faisait pile poil le contexte qu'il fallait pour monter le projet, quoi.
Ouais. Mais je trouve qu'ils sont ouverts quand même.
La congrégation.
Ouais.
Ah bah ouais, ils sont super ouverts fait dans les statuts de leur organisation. Normalement, ils peuvent héberger que des projets médicaux en fait. Ouais. Enfin dans le médico-social. Et du coup, c'est pour ça qu'ils veulent vendre, mais c'est pas nécessairement parce qu'ils veulent pas rester propriétaires de notre projet, quoi. Et du coup, c'est parce que notre projet leur plaît et qu'ils se disent « Ok, il y a quand même une continuité idéologique, une continuité dans les valeurs mm-hmm. qui font qu'on vous laisse un petit moment, par exemple 2 ans, pour monter votre projet, trouver les financements pouvoir acheter le lieu, parce qu'ils veulent nous vendre à nous. »
Ouais, c'est une super... Enfin, je sais pas, hein, ça fait chaud au cœur, je trouve.
Ah bah ouais, c'est une super opportunité. Et puis c'est une belle preuve de foi aussi en l'énergie collective et en la construction de ce type de projet.
Ouais. Ah ouais. Et donc, pour l'achat, vous avez déjà eu des pistes de... Ouais.
Ouais, on a déjà eu des pistes. On est en discussion avec les vendeurs. On est aussi en cours de faire plein de...
Plein
d'études pour savoir combien ça va coûter, les travaux aussi. On est en recherche de financement, on va préparer la levée de fonds. Et puis voilà, bah c'est un travail qui est en cours, sur lequel on va essayer de se faire accompagner aussi, surtout sur la partie juridique, quoi, le montage juridique de l'achat, qui pour l'instant est un travail qui va démarrer, quoi, mais c'est pas encore vraiment avancé.
Parce que est-ce que vous avez imaginé, sur le nombre de personnes que vous êtes, si vous donnez une certaine somme, est-ce que ça peut déjà...
Non, là, pour l'instant, c'est la somme totale, elle est beaucoup trop ambitieuse pour qu'on puisse y arriver avec du financement de particuliers. Il y aura nécessairement... Il y aura une partie de financement de particuliers, et j'espère une partie importante. C'est quelque chose qui est... Parce que, tu vois, avec le démarrage du projet, il y a eu vraiment une enquête citoyenne sur les gens qui habitaient ici. Il y a eu une enquête pour dire qu'est-ce qui représente pour vous ce bâtiment ? Est-ce que c'est important de le conserver ? Qu'est-ce que vous imaginez exister comme projet dans ce bâtiment ? Et il y a eu une mobilisation importante des habitants du coin. Donc je pense qu'en effet, il y a peut-être quelque chose qui intéressera les habitants sur la participation personnelle et privée à l'achat du bâtiment. Mais ça ne suffira pas à acheter au total, sauf grande surprise. Mais...
les artisans, par exemple, quand ils viennent, vous sélectionnez ou pas ? Enfin, je ne sais pas comment vous fonctionnez à ce niveau-là.
Alors, pour les plénières, on est en pleine construction. On va en avoir une première là ce samedi. Mais effectivement, on est en pleine construction de notre modèle de gouvernance, comme tu as pu en parler tout à l'heure. C'est comment est-ce qu'on travaille ensemble alors qu'on n'avait jamais travaillé finalement ensemble auparavant. Essayer de trouver la meilleure moyen d'être efficace dans nos réunions et en tant que bénévole pour prendre des décisions, etc. Après, pour l'association, il y a, comme je te disais, plein de porteurs de projets à l'intérieur. L'Artisanoscope, c'est un collectif qui est à part, et nous, on a notre propre organisation interne, en fait. Mais pour
le chalutier en général, il y a une association qui gère ou... Oui, c'est ça.
Oui, c'est ça.
Ok, d'accord.
Donc le chalutier, c'est une association, et du coup, on a une commission qui gère les visites et les entrées. Enfin voilà, c'est des choix qui sont faits en commun, mais c'est des voilà.
L'association du chalutier, on est structuré du coup en commissions de travail qui sont plutôt des commissions de compétences pour l'instant, de fait. C'est pas forcément une organisation volontaire jusqu'ici, mais de fait, ça s'est un petit peu organisé comme ça. Et après, on a aussi des groupes qui sont à la frontière pour l'instant entre les groupes d'acteurs, c'est-à-dire qui est-ce que je suis dans le projet ? Est-ce que je suis un porteur de projet ? Est-ce que je suis un habitant du territoire ? Est-ce que je suis un élu de la commune ? Enfin voilà, on arrive avec qui on est. Donc ça, c'est les groupes d'acteurs. Et il y a aussi, qui sont en train de se dessiner, les groupes d'activités. Donc ça, c'est qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je fais partie du pôle artisanat ? Est-ce que je fais partie du pôle parc ? Est-ce que je fais partie de pôle, musique, par exemple ? Et donc, on est en train d'essayer de mélanger tout ça pour trouver un mode de gouvernance partagée qui permette à chaque fois de représenter les intérêts de chacun, qu'il n'en ait pas qu'il soit surreprésenté ou sous-représenté, parce que c'est un problème qu'on a eu dans le modèle précédent. Et voilà, et essayer de trouver un mode de vote commun. Donc, pour l'instant, on a des votes un peu à la chaîne, c'est-à-dire chaque groupe va élire une personne qui va voter pour ce groupe, ce qui fait qu'à la fin, les votes finaux se font entre 6 ou 8 personnes.
Ah.
Mais, okay. Mais bon, voilà, on est pas sûr, on est peut-être en train de réformer ça et de changer un peu.
Mmh. On expérimente, comme on est tout bébé, tout jeune, on n'a que un an, du coup, enfin, c'est que de l'expérimentation, on essaye, on ajuste, et puis on fait au mieux, en fait, ce qui convient le mieux aux gens.
Et là, vous avez décidé, par exemple, de louer, c'est ça, j'ai bien compris, hein, des artisans, des musiciens, enfin, qui ont besoin de... Et cette location, vous l'avez réfléchi comment, au niveau tarif, au niveau de... Voilà.
Alors là, pour l'instant, ça s'appelle pas des locations parce qu'on n'est pas en bail de location, c'est des redevances d'occupation. Et en fait, ça a été calculé de façon à ce qu'on a pris toutes les charges, tout ce que coûte en fait le bâtiment, en l'état actuel et avec les, voilà, les besoins qu'on a aujourd'hui. On a divisé cette quantité de charges par le nombre de mètres carrés louables, enfin occupables. Et ça nous donne un prix au mètre carré pour occuper les locaux. Ce qui fait que quand on est plein, ou là à partir de maintenant c'est bien, quand on est plein on paye nos charges. Mais c'est pas une activité lucrative en soi.
Oui, oui.
C'est une activité à l'équilibre.
Mais est-ce que c'est le but ?
C'est une bonne question. Le travail sur le modèle économique, il est en cours. En fait, l'idée c'est de trouver un modèle économique hybride qui vient assurer une stabilité financière avec des activités basiques de fonds en fait qui payent les charges, et après des activités plus lucratives qui ramènent de l'argent à l'association. Et là ça va être les événements, ça va être quand on sera prêt, l'hébergement et autres activités.
Vous avez prévu des hébergements?
Ouais, mais c'est pas encore, on n'a pas encore toutes les normes pour pouvoir le faire. Donc ça, c'est un projet, c'est prévu dans un endroit, mais pour l'instant, on peut pas le faire. Il faut qu'on finisse les dossiers de mise aux normes.
Donc quand on dit hébergement, ça veut dire location d'un appartement ou des choses comme ça?
Non, c'est de l'hébergement touristique.
Ah, comme un gîte?
Ouais, comme un gîte ou une auberge de jeunesse. En fait, ça va avec les activités qu'on est en train d'imaginer au rez-de-chaussée. On a beaucoup d'activités de cours. Donc il y a des stages, il y a des cours, des choses qui sont des cours de 2 heures de temps en temps et des choses qui sont un stage d'une semaine pour apprendre à faire un fauteuil. Et là, c'est ces stages-là qui vont aussi être quand même une source importante d'hébergement. Par exemple, notamment avec l'artisanoscope, on a des arts qui sont pas très répandus en France et qui du coup, quand on organise une semaine de stage sur un art particulier, comme par exemple le bouti, qui est quand même une niche, quoi. Mmh. Ça peut faire venir des gens de la France entière qui vont avoir besoin d'être hébergés sur place.
Ah, ok.
Voilà. C'est un hébergement ponctuel.
Ouais.
D'accord. Et des locations d'appart, toutes choses comme ça, c'est des trucs que vous avez envisagés ou pas du tout?
On les a envisagés, mais pour l'instant, on ne sait pas. Ouais.
Bah, c'est vrai que c'est compliqué parce que du coup, vous êtes pas, vous savez pas si vous restez ou pas. Donc, vous ne pouvez pas engager des gens à venir habiter là ou c'est ça,
ouais,
en fait.
Ouais.
Si des bénévoles veulent venir à l'abordage de ce projet, tout le monde est les bienvenus. Quand je dis bénévoles, c'est des gens qui seraient intéressés dans la construction et de prendre part au projet, ou alors bénévoles pour faire des événements. Enfin, on programme généralement un événement par mois, et donc des bénévoles, il en faut pour être épaulés, en fait, parce que nous, on est peu finalement dans nos commissions et dans nos groupes de travail. Et c'est vrai que si on peut être déchargé, enfin voilà, avec des gens qui ont envie de prendre part au projet en nous aidant sur différents événements ou alors d'amener un projet aussi et de faire vivre aussi le lieu avec leur propre projet.
Et par exemple, les artisans qui sont installés ici, c'est complètement autre chose. Ils participent pas forcément à la construction du tiers-lieu.
Et ben, le simple fait d'être dans le tiers-lieu, en fait, c'est une aide, en fait. Ils prennent part du projet par le simple fait d'être ici. Et après, effectivement, il y a des artisans qui sont très investis dans le projet, qui aident vraiment au développement du projet. Mais vraiment, en fait, le simple fait d'être ici, de travailler, d'être présent tous les jours, et c'est une forme de vie, en fait. Prendre vie au projet, c'est ça, c'est d'être dans les espaces, d'être ici, de ramener ses amis. Enfin, voilà, le fait de donner des cours, ça ramène des gens. Et puis le projet prend de l'ampleur. Enfin, on est au courant de ce qui s'y passe. Et puis voilà, après, c'est le bouche à oreille, le réseau. Et en fait, voilà, c'est le simple fait d'être ici, c'est énorme, en fait, pour l'association, je pense.
Oui, non, mais je parlais au niveau, par exemple, du futur, c'est-à-dire pour l'achat de ce fameux bâtiment. Le fait, est-ce que tout le monde s'investit? Est-ce qu'il y a des idées qui circulent? Est-ce que vous vous réunissez? Enfin, c'est ça que je voulais savoir.
Ouais, pour l'instant, il y a un groupe achat. On est quatre dans le groupe de travail achat. On travaille sur ce sujet-là, donc pistes financières, pistes juridiques, pistes d'accompagnement, discussion avec les propriétaires. Et donc, on fait avancer notre petite barque. On essaie de recruter plus de bénévoles en interne, mais à la fois, pour l'instant, c'est un sujet tellement complexe et tellement pas dégrossi que c'est aussi difficile de s'y pencher à 10, quoi. 4, c'est bien, pour l'instant.
D'accord.
Donc voilà, mais dès qu'on aura dégrossi un peu le sujet, là, on va pouvoir avancer plus vite, quoi.
Et du coup, après, vous rediffusez vos infos, vous partagez avec les autres pour ne serait-ce qu'avoir un regard. Enfin, je ne sais pas comment vous fonctionnez. Vous restez vraiment quatre sur le projet et pour l'instant, vous restez là-dessus.
En fait, pour l'instant, on est vraiment en phase de recherche d'informations. On n'a pas de... Enfin, quand on en parle au collectif, on en parle en toute transparence. Si on nous pose des questions, hein, c'est pas du tout quelque chose de secret, mais on n'irait pas non plus leur communiquer au collectif la centaine de questions qu'on a en cours et auxquelles on n'a pas de réponse. Donc ouais. Pour l'instant, ouais. On est surtout en train de lister les questions. Ouais. Donc non, on n'a pas plus de lien que ça avec le collectif. Mais par exemple, ça peut faire l'objet d'une discussion pendant la plénière ou ça fait l'objet de discussions pendant les comités de pilotage quand il y a des questions précises. Voilà.
Ah, comité de pilotage, c'est quoi ça?
Ouais, c'était notre dernière instance de prise de décision dont je parlais tout à l'heure, où chaque groupe envoyait des personnes qui votent, ça c'est le comité de pilotage. Là, on a arrêté le système de comité de pilotage depuis avril pour réformer et passer à autre chose qu'on n'a pas encore trop trouvé. Donc il y a la plénière qui est une tentative d'autres modes de prise de décision, mais la prise de décision en grand collectif comme ça, on est quand même presque 30 à être vraiment actif, c'est pas évident.
D'accord. Et vous êtes renseigné un petit peu sur les méthodes ou les méthodes des professionnels de la démocratie, en fait, qui donnent des pistes, en fait, de fonctionnement sur ces groupes-là. Vous avez eu des pistes là-dessus, des renseignements, rencontré des gens?
Oui, on a rencontré des gens. On a été accompagné un petit peu par Karine Charles, qui est une... intervenante sur les sujets de gouvernance partagée. On a aussi été un peu accompagné par Sistorga, qui nous a fait un cours sur la gouvernance partagée.
Sistorga.
Istan aussi.
Oui, tout à fait. Il y a eu Nous Istan aussi, qui nous a accompagnés là-dessus. On a fait aussi une journée de réflexion pendant laquelle on a créé un mandala holistique pour essayer de définir nos activités.
Il ramasse chaque jour un caillou et le planque dans sa poche. Il raconte qu'il s'en ira les planter pour que poussent des murs, fruits mûrs de la liberté. Il est persuadé qu'en cultivant des cailloux, le temps sur son lit ricoche. Il nous dit que les pierres, elles, ne sont pas névrosées, que nous sommes ses remparts et repart les arroser. Mais comme les autres, il tourne en rond comme un poisson dans son bocal qui s'extasie chaque minute
devant les ruines de son local. Et quand arrive l'heure de la promenade, il reste enfermé. C'est comme ça qu'il s'évadit entre le premier, juste le temps de gommer du soleil et de gratter le sol pour trouver une merveille, un bout de béton qui est pas pareil, un bien unique, le seul sur terre qui le fait tenir. Se dire que chaque jour est à marquer d'une pierre. Il ramasse chaque jour un caillou et le planque dans sa poche. Il raconte qu'il s'en ira les planter, que poussent des murs, fruits mûrs de la liberté. Il est persuadé qu'en cultivant des cailloux, le temps sur son lit ricoche. Il nous dit que les pierres, elles ne sont pas névrosées, que nous sommes ses remparts et repart les arroser.
On a tous oublié pourquoi il est tombé, mais on sait qu'il est resté accroché. Il s'est agrippé à la paroi, même au jour de silex quand il a percé nos parois. Les jours de démence où on lâche prise, pour chuter plus bas, s'abandonner à la brise. Dans ce cas, on se rattrape toujours à quelque chose. In extremis est brisé, on arrose des fleurs grises. Le marginal à la mine fragile ne comprend pas la justice de granit et machinal. Et pourquoi ceux qui font carrière comme par magie jouissent d'un jugement de glaise ou d'argile. Il regrette ses crimes mais pas ses idées, on finit sous une pierre par nécessité. À l'édifice des hommes avant qu'ils ne se détruisent, il voulait apporter sa pierre et bien il l'a reprise.
Il ramasse chaque jour un caillou et le planque dans sa poche. Il raconte qu'il s'en ira les planter, que poussent des murs, fruits mûrs de la liberté. Il est persuadé qu'en cultivant des cailloux, le temps sur son lit ricoche. Il nous dit que les pierres, elles ne sont pas névrosées, que nous sommes ses remparts et repart les arroser.
Il nous dit tout le cynisme des gens en liberté qui ont des ghettos dans la tête et des cadenas au cœur, avec des serrures sans clé et dans leur jardin secret qui laissent pousser le chien dans
et les maisons barrées.
Chalutier, qu'est-ce que c'est ? Donc c'est, on est en 2019, et en 2019, un petit groupe de citoyens, enfin de personnes de la Baume d'Austin, se réunissent pour faire ce qu'on appelait les petits déjeuners baumois. Donc c'était des petits déjeuners qui avaient lieu avant les élections, les samedis matins, un samedi matin par mois. Et donc le principe de ces petits déjeuners, c'était d'essayer de voir en fait ce que les habitants attendaient dans le village à la suite des élections, en fait, savoir s'il y avait des projets, des envies, etc. Et il s'est avéré qu'en fait au cours de ces petits déjeuners baumois, il y a eu différents sujets qui ont été évoqués, donc des besoins en termes d'aménagement, des besoins en termes de préservation de l'environnement. Et une grosse inquiétude au niveau du centre Sainte-Catherine-Labouré dans lequel nous sommes, puisque ce site, qui a une vocation médicale à la base, était occupé par l'ADAPT. L'ADAPT étant un centre de soins de convalescence. Et l'ADAPT déménageait en 2021. On n'avait pas la date précise à cette période. Et les gens étaient soucieux de savoir ce qu'allait devenir le site Sainte-Catherine-Labouré, à vrai dire, puisque il existe depuis la fin des années 50. Et bon nombre de personnes ont travaillé ici, certains ont même vécu ici, puisque à l'époque, il y avait les sœurs, les filles de la Charité Saint-Vincent-de-Paul qui étaient dans les lieux, et qui œuvraient en fait sur le territoire. Hein. Elles étaient vecteurs de liens sociaux, c'était assez important. Donc beaucoup ont passé un morceau de leur vie ici. Alors forcément, les gens s'inquiètent de savoir ce que va devenir le site. Et donc ensuite sont venues les élections. Donc nous avons le conseil municipal en fait entrant, dans lequel je fais partie, avec Madame le maire, Madame Pelou-Praillé. On a décidé en fait de s'atteler à la question de ce centre. et de réfléchir, de déblayer un petit peu la zone, de savoir ce qu'on pouvait y faire. Alors notre intention de départ, c'était de pouvoir justement y créer un espace ressource où tout le monde puisse venir et dans lequel en fait on véhicule des valeurs fortes qui étaient en lien finalement avec celles que véhiculaient les sœurs à la base. Et puis des valeurs en lien en fait avec notre éthique actuelle, notamment qui visait à expérimenter un petit peu la transition sociale, la transition écologique, si je reste un petit peu large. Et on s'est dit que ce qui serait bien, c'est qu'on puisse co-construire ce projet-là. Et donc très rapidement, on s'est attelé à trouver des porteurs de projets, des gens qui pourraient être intéressés pour occuper les lieux, qui avaient besoin, qui étaient en recherche d'un lieu, et qui finalement étaient aussi dans cette même dynamique que nous. Nous sommes très rapidement tombés justement sur l'Artisanoscope, qui était en recherche de lieux, et qui a commencé à co-construire le projet avec nous très rapidement, suivi d'un projet de recyclerie, on a eu Famille Rurale, on a eu un projet d'école Montessori aussi, enfin voilà, on a eu un certain nombre d'acteurs, on avait la roue aussi de Chabeuil qui s'était greffée au projet, c'est un tiers-lieu. Et en fait, on s'est retrouvés à cofonder à 7. Alors, ce qui était rigolo, c'est que nous étions 7 femmes hein, dans la lignée de la sororité. voilà, c'était assez drôle. Et on a commencé à co-construire ce projet, à aller déjà enquêter auprès des habitants du territoire, du bassin, à savoir finalement si ce qu'on pouvait proposer, ça répondait à des besoins, si c'était dans leurs attentes, etc. Et en fait, ça a matché. Les gens, en fait, souhaitaient voir ici vraiment un lieu dans lequel ils retrouvent... des activités, pourquoi pas, agricoles ou agroécologiques, un pôle peut-être bien-être, de l'artisanat, de la valorisation des petites entreprises du secteur, etc., etc. Du coup, on s'est lancé dans la grande aventure du chalutier. Et il y a eu plein d'autres choses, effectivement, depuis, mais notre volonté de départ...
Ce que j'ai compris, c'est que donc, vous êtes maintenant combien à peu près?
Alors aujourd'hui, nous sommes une quinzaine de membres très très actifs. Il n'y a pas non plus énormément de gens très 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 actifs, hein, parce que bon, c'est bien que le bénévolat, ça demande comme... en plus ça demande beaucoup de travail, la construction d'un projet comme celui-ci. Mais après, il y a beaucoup plus de bénévoles que ça. Hein. On en a plus d'une trentaine globalement, et puis après beaucoup plus qui viennent aussi pour les événementiels ponctuellement, etc.
Donc, alors, comment ça se passe? Parce que vous faites, j'imagine, des plénières. Donc, la première plénière a eu lieu, je crois, c'est ça?
Alors, pas véritablement. En fait, ce qui s'est passé, c'est que la première plénière, vous parlez d'Assemblée Générale ou... mmh, c'est ça? Mmh. Oui, donc là, récemment, effectivement, on a eu, il y a un peu plus d'un mois, on a eu notre première Assemblée Générale, où on a eu de nouvelles élections. Donc, il y a 4 personnes qui ont été élues, dont une personne morale. Avant, nous étions 7. Et donc, l'idée, c'est d'être en coprésidence. Donc, il n'y a pas de président, de secrétaire, de trésorier, comme de coutume. Nous avons fait le choix, et ça, depuis le départ du projet, en fait, d'être en coprésidence.
Alors, vous êtes en coprésidence à 15?
Non, à 4.
4. D'accord. Donc, ça, c'est passé par une forme d'élection?
Oui, c'est passé par une élection, oui. Ah, et là, en fait, bon, ce qui se passe, c'est qu'actuellement, on est en pleine construction, finalement, du nouveau modèle de gouvernance. À vrai dire, depuis le départ du projet, comme je vous l'ai évoqué tout à l'heure, c'est là-dessus que j'allais rebondir, c'est qu'en fait, on était, notre volonté, nous, c'était vraiment de co-construire le projet, au départ, quand on l'a initié. Et du coup, ça a nécessité aussi qu'on monte en expertise sur les systèmes de gouvernance un petit peu différenciés, enfin la gouvernance partagée, les modèles sociocratiques, etc. Donc, on a eu l'occasion d'avoir un petit peu des données avec le Nousistan et Karine Charles aussi, qui nous ont un petit peu accompagnés à un moment donné. Et des systèmes basés sur les principes de l'université du Nous, la sociocratie, etc. Donc, au départ, on avait essayé d'initier un système de gouvernance, justement, sous forme, un petit peu, notre intention, c'était d'arriver à avoir une collégialité et d'avoir différents cercles de travail avec des liens qui remontent, justement, au niveau de la prise de décision. Donc, nous avions la capitainerie à l'époque. Si je retrace, hein, parce qu'en fait, c'est toute une évolution, la gouvernance au chalutier, à vrai dire.
Bah, c'est pas évident, faut trouver ses marques, en fait, dans tout ça.
C'est ça, et puis bon, même si les systèmes de gouvernance collective existent depuis très longtemps, en fait, on a encore une forme d'expérimentation puisqu'on est en train de chercher en fait l'équilibre entre le vertical et l'horizontal. Est-ce qu'on va sur du tout horizontal? Comment on abolit le vertical? Enfin voilà. Bon bref. Et du coup, bon, je vais en revenir à mes moutons. Donc en fait, on avait essayé d'expérimenter ce modèle avec notre capitainerie, mais dans notre capitainerie, en fait, il y avait de l'information qui circulait. Il y avait de la consultation et en fait, on avait du mal à prendre des décisions finalement au bout. Après, ça nécessite une structuration finalement, même au-delà même en fait de la façon dont on structure les groupes de travail, c'est même à l'intérieur de chaque groupe de travail comment en fait on se rend opérationnel à l'instant où on travaille. C'est-à-dire quand on est autour d'une table en réunion, comment on va diriger la réunion? Est-ce qu'on la dirige de manière traditionnelle? À notre ordre du jour, etc. Et puis voilà, chacun parle, tatati, tatata. Non, en fait, on se rend compte finalement aussi que dans ces systèmes de gouvernance, ça nécessite une structuration même au sein de la réunion.
C'est-à-dire, donc concrètement, alors, vous avez choisi quoi?
C'est-à-dire qu'à cette époque-là, en fait, on a expérimenté plein de choses. Donc on n'avait pas choisi grand-chose. On avait choisi juste de se faire un petit ordre du jour, de faire une météo pour que chacun puisse s'exprimer et qu'on prenne en considération l'état de chacun, etc. Et on essayait de mettre en place des systèmes de bâtons de parole, ce genre de choses, qui quelqu'un en tout cas qui capte, qui se dit bon bah là voilà c'est à telle personne de parler, etc. On a essayé ce genre de petites choses, de petites astuces, de petites techniques d'animation. et puis nos réunions étaient encore super longues. Je pense que voilà, c'est comme un petit peu de partout. Enfin, je dis ça, c'est parce que je l'ai vu à d'autres endroits aussi. Et voilà. Et aujourd'hui, en fait, bon, donc les choses ont beaucoup changé, ont beaucoup bougé. Le système de notre capitainerie, etc., enfin, c'est... a changé. On avait mis en place après un copil qui était décisionnaire, qui comportait au sein même du copil, vous aviez différents groupes, et non pas des groupes de travail, mais des groupes de parties prenantes internes au site, c'est-à-dire qu'on avait un groupe habitant, un groupe occupant, un groupe bénévole, et on avait même le groupe des responsables légales qui étaient représentés à l'époque par les cofondatrices. Et donc ce groupe-là, en fait, était décisionnaire. Voilà. Et en fait, en changeant de modèle, en passant de la capitainerie à ce modèle-là, en fait, on s'est rendu compte qu'on était beaucoup plus efficace au niveau décisionnaire. Et c'était ce qu'on cherchait.
Donc en fait, vous consultez tout le monde, mais il y a quand même la décision finale vous appartient. Enfin, appartient... À quelques personnes, on va dire.
À un groupe. Mais un groupe qui représente.
Donc qui est censé représenter. Donc on en est sur un système représentatif?
Presque, j'ai envie de vous dire.
Toujours dans cette représentativité, où vous essayez encore d'adapter autre chose pour s'approcher au plus près d'une gouvernance différente?
Oui, alors là, aujourd'hui, en fait, suite à la dernière assemblée générale, on est encore dans la représentativité. Il y a donc 4 personnes qui ont été élues. Donc une personne morale, l'artisanoscope, puisque l'artisanoscope occupe quand même une bonne partie du bâtiment, est très très impliqué, très investi, et puis dans la co-construction du projet. En fait, le projet en fait a existé parce qu'on a co-construit ce projet depuis le départ ensemble. Donc du coup, ils font partie de l'équipe. Ensuite, on a une personne qui représente les habitants, une personne qui représente les bénévoles et une personne qui représente, qui crée un lien en tout cas entre la mairie, enfin la commune et le tiers-lieu.
Et donc là, ça fonctionne mieux?
Alors, pour le moment, on est en structuration, donc j'ai envie de dire, c'est un test, on va voir si ça fonctionne mieux ou pas. Je n'ai pas assez de recul.
Et c'était quoi finalement les problématiques qui se posaient? Juste pour les décisions, ou est-ce que les désaccords n'arrivaient pas à se mettre d'accord?
Je pense que oui, effectivement, il y avait un problème décisionnaire, mais ça c'était jusqu'au mois de décembre. Après, il n'y avait plus de problème décisionnaire à la suite des copiles. Par contre, il y avait un problème de communication entre le collectif, puisqu'on n'avait plus d'instance en fait, de débat. d'instances en fait, dans lesquelles chaque commission, que ce soit la commission communication, gestion des lieux, etc., parce qu'on a tout un tas de groupes de travail et de commissions, en tout cas, on n'avait plus d'instance dans laquelle on pouvait débattre, échanger de nos points de vue, de nos envies, de nos intentions.
Et pourquoi ? Pourquoi il n'y avait plus d'instance, en fait ?
Eh bien, parce qu'on s'est retrouvés face à une multiplicité de réunions. À vrai dire, chaque groupe, avant les COPIL, se réunissait, que ce soit des groupes d'habitants, des groupes de bénévoles, etc., ce que je vous expliquais tout à l'heure. Ces groupes-là se réunissaient, traiter des sujets qu'ils avaient besoin de faire remonter en COPIL, prenaient en considération aussi les autres sujets qu'ils avaient pu voir apparaître, puisqu'on fonctionne avec l'outil Trello, donc chaque groupe faisait remonter un petit peu ce dont il avait besoin de parler. Donc ils traitaient ces sujets, ils se consultaient, et s'ils constataient qu'il y avait des sujets à voter, c'était voté en interne dans les groupes, mais après il y avait effectivement une seule personne ou deux qui venaient au COPIL y assister. C'était pas en forme de plénière en fait. Donc on avait choisi ce modèle-là, qui a été expérimenté pendant quelques mois, que là on va certainement refaire en attendant de remettre un nouveau système en place, puisque là derrière les nouvelles élections, en fait l'idée aussi c'est de retravailler un petit peu ce schéma. En tout cas puisqu'on s'est rendu compte, avec la nécessité en fait d'avoir un organe décisionnel beaucoup plus strict, en tout cas qui cadre et qui nous permette de prendre de véritables décisions, une espèce de service qui a été créé en fait par le groupe Archer et Valence Roman Agglo, qui a pour vocation de faire émerger, suite à un appel à projet national, la TIGA, ces territoires d'innovation et de grande ambition là, qu'ils avaient obtenus il y a quelques années, de faire émerger en fait des projets innovants avec une certaine éthique sur le territoire. Donc c'est souvent en lien avec l'économie circulaire et l'économie sociale et solidaire.
Et là, il y a quoi, des subventions, des aides financières ou pas ?
Effectivement, on a pu obtenir une subvention de leur part. Puis ils nous accompagnent aussi, en fait. Ils nous avaient accompagnés sur l'animation d'ateliers d'idéation, des choses comme ça, et suivent le projet.
Et c'était bien ?
Oui, oui, c'était bien. Oui. Nous, ça nous avait permis de poser des choses, en fait, avec les habitants du territoire, à savoir ce qui c'était à l'époque de la construction du projet. Savoir ce qu'ils voulaient sur le site, comment on pouvait interagir ensemble, quelles étaient les choses qu'ils voyaient sur le long du temps. Et puis il faut accepter en fait de lâcher prise et de se dire que c'est pas des systèmes qui sont figés, ils peuvent bouger en fait tout le temps quoi. On expérimente.
C'était difficile aussi parce que finalement on a des habitudes de fonctionnement qui nous viennent de loin et
Exactement. On a beaucoup de choses à déconstruire,
c'est
sûr.
Oui, c'est ça. Et c'est pas toujours facile, je pense.
Non.
Malgré tout, même si dans notre tête, on se dit oui, c'est super, on peut faire autrement.
Exactement. C'est pas si simple parce qu'en fait, on s'en rend pas compte, en fait.
C'est ça.
Que c'est ancré en nous depuis longtemps. Oui, exactement. Mais on va y arriver.
Mais
oui,
bon courage.
Bah, j'y crois.
Alors, tête à claque. Ouais, c'est pas mal. Allez, on se retrouve le mois prochain. Thank you.